Europe 1, qui vive. Raphaël Antoven.
On dit souvent que les meilleurs interprètes d'un rôle ou d'une mélodie sont ceux qui les comprennent le moins. Car l'interprétation n'est pas souillée par la connaissance, le réflexe n'est pas ralenti par la réflexion. Eh bien, c'est faux. Connaître les arcanes d'un grand rôle n'empêche pas de lui donner chair et vie. Et savoir de quelle musique on parle et ô combien n'empêche pas de l'interpréter magnifiquement. Or, nul ne porte mieux, à mon sens, cette double casquette de commentateur et d'interprète que le jazzman et saxophoniste Raphaël Imbert, dont vous allez aujourd'hui entendre réflexions et notes.
Qui vive sur Europe 1.
Bonjour Raphaël Imbert.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1, bienvenue dans Qui vive. Vous êtes saxophoniste, vous êtes aussi le directeur artistique de la compagnie Nine Spirit. Alors j'ai dit qu'on allait entendre un peu de vos notes. Ce ne sont pas exactement vos notes là qu'on entend, ce sont les notes qui ont inspiré les vôtres. De qui s'agit-il ?
De Duke Ellington, ouais. Sur Take the Train, qui est un des grands standards composé par Billy Strayhorn, qui était un petit peu son alter ego. Une belle histoire de fraternité.
Une vraie histoire de fraternité précisément. Et Duke Ellington, ici, c'est une fraternité à travers le temps, puisque d'une certaine manière, vous en parlez comme d'un frère.
À tout point de vue, c'est celui qui nous donne, à nous musiciens et pas que jazzman, une raison d'être. Et puis en plus, il a c'est une dimension effectivement œcuménique, syncrétique, fraternelle aussi de par l'appartenance qu'il a à la franc-maçonnerie noire américaine. Il accumule un petit peu tous les mystères et toutes les clartés.
Duke Ellington était franc-maçon.
Et oui, c'est une des grandes nouvelles de que j'ai à vous annoncer. Et c'est pas le seul, c'est loin d'être le seul.
Vous voulez dire qu'il était juif aussi?
Alors non, pas que je sache, mais ça, il faudra qu'on creuse un petit peu.
Personne n'est parfait, soit dit pour énerver nos auditeurs. j'en reviens au jazz. Non, revenons au jazz, c'est très important. Ce que vous dites de Duke Ellington renseigne sur un certain nombre de paradoxes attaché à cette musique que vous aimez tant. C'est une musique savante,
oui.
Et c'est une musique populaire. Premier paradoxe quand même. Fait. C'est quand même étonnant ça.
Alors, j'ai même, si je peux parler un peu trivialement, c'est une musique qui a le cul entre deux chaises,
ouais.
Et qui doit garder ce truc-là. C'est-à-dire que si à partir du moment où elle se sent un petit peu confortable d'un côté ou de l'autre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est une musique populaire. Elle est issue, alors, musique populaire au sens d'abord d'une musique qui est issue d'un peuple, d'une communauté, qui exprime la fierté et l'esprit d'une communauté et d'un peuple, mais aussi musique à ce moment-là, à l'époque de Duke Ellington, populaire au sens marchand du terme. C'est-à-dire que c'est la musique qui s'achète, c'est la musique qui s'écoute par le plus grand nombre.
Moi, quand je disais populaire, je pensais au paradoxe d'une musique essentiellement orale qui finit par, j'allais dire, se figer en partition. Peut-être pas, mais en tout cas, donner lieu ensuite à des compositions extraordinairement sophistiquées, mais qui au départ est un jaillissement.
Alors, en fait, si on regarde bien l'histoire...
Ouais.
Cette ambiguïté, ce paradoxe, cette ambivalence, elle existe dès le départ. Dès le départ, vous avez des Scott Joplin qui écrivent des grandes œuvres, sauf que le problème dans le contexte de la ségrégation de l'époque, c'est qu'ils sont noirs. Donc ils n'ont pas les mêmes droits que les compositeurs blancs de leur temps, mais sont des gens et des artistes au plus haut sens du terme qui ont la volonté d'écrire la musique classique américaine. On leur empêche, et d'une certaine manière, c'est par le biais de la musique populaire, musique de danse, musique profane, qui vont accéder à une certaine notoriété et à construire un nouveau langage, avec toujours la volonté de faire à la fois quelque chose qui fait sens pour le peuple, et en même temps qui fait sens artistiquement et pour la grande histoire.
Donc si cette musique populaire, cette musique profane, cette musique du diable, comme on dit, a su inspirer les plus hautes ambitions spirituelles, c'est aussi parce qu'elle les porte en elle, dès le départ.
Elle les porte à plusieurs titres. D'abord, comme toujours dans ce contexte-là, cette communauté, cette musique populaire crée aussi leur propre musique sacrée. On connaît le gospel, on connaît le negro spiritual, on connaît tout ce contexte-là. Mais surtout, elle défend. Alors, est-ce qu'elle le défend ou est-ce qu'elle invente un nouveau mode d'oralité ? C'est justement toute la question et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a l'improvisation qui est là. Et l'improvisation qui permet de jouer...
On va parler beaucoup de l'improvisation, c'est très important. Pense, et on va l'entendre aussi, oui.
Exactement, parce que, en fait, c'est une musique qui préserve d'abord la tradition de l'improvisation. Vous savez, tous les musiciens classiques européens, occidentaux, étaient des improvisateurs. Mozart, Bach, Beethoven, Liszt, Chopin étaient reconnu en tant qu'improvisateur.
Et notre ami commun, Carole Beffa, s'inspire d'eux pour improviser au piano, par exemple.
Carole s'inspire non seulement de cela, mais en plus, il renoue avec cette tradition-là, comme beaucoup de musiciens alors de l'univers baroque ou de l'univers de la musique contemporaine, renoue avec l'improvisation en se disant, tiens, c'est marrant, et c'est un vrai problème philosophique, pourquoi on a fait disparaître l'improvisation à la fin du 19e ? Et quand on fait disparaître l'improvisation, pour des raisons d'ailleurs éducatives, des raisons aussi de la place du compositeur qui devient de plus en plus démiurgique, de plus en plus importante.
Oui, parce qu'on veut avoir la maîtrise sur ses émotions, tout simplement, et que l'improvisation, c'est un laisser-aller, c'est un lâcher-prise.
Ah, c'est non seulement un lâcher-prise, puis c'est un excellent moyen de mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que quand on a oublié la partition, on a oublié une mesure, ou on a fait une fausse note, improviser, c'est l'art d'agrémenter les fausses notes.
Ça marche avec les profs aussi. Une question encore. Une musique noire, c'est aussi l'ultime paradoxe. Enfin, il y en a une infinité d'autres, mais allons aux essentiels ici. Le jazz est une musique noire.
Oui.
Mais c'est une musique universelle.
Oui.
C'est-à-dire que, au principe, par exemple, de l'idée qu'on a appelée de négritude, dans le sillage d'Aimé Césaire ou de Saint-Gore, au départ, la négritude, qui voulait créer une langue noire, spécifiquement noire, et retravailler les mots dans un sens qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent, était une langue qui avait aussi pour ambition d'être in fine universelle et de reconquérir un langage qui soit, comme disait Sartre, un chant d'amour pour tous. Sauf que la négritude, ça marchait pas, en l'occurrence. Ça n'a pas été ce chant d'amour pour tous, à part quelques écrivains, mais c'est assez rare que par ce cheminement-là, on soit revenu à l'universel, alors que le jazz, ça marchait tout de suite.
Ça a marché, ça a été inventé pour ça. Ça a été inventé pour exprimer l'inexprimable, notamment de cette communauté qui était totalement opprimée, et pouvoir se faire comprendre par tout le monde. C'est une musique... Alors, je peux même filer le paradoxe un petit peu plus loin quand j'étudie la musique qu'on appelle la musique country, celle que nous, en France, vous savez, en France, on aime bien les catégories, on aime bien mettre les gens dans des cases, et on voit ça comme une musique de paysans blancs. Or, moi, j'ai envie de dire, la country est une musique noire comme les autres. Elle est issue de la même histoire, elle est issue de la même rencontre, elle est issue du même drame, de la même tragédie, d'un crime contre l'humanité absolument terrifiant qu'est la traite négrière. C'est dans ce contexte-là que ces musiques... Alors, aux États-Unis, ils ont inventé un terme que je trouve intéressant qui s'appelle Americana. C'est un terme un peu général pour mettre dans le même panier toutes ces musiques populaires qui sont issues de toutes ces communautés mais qui ont toujours dialogué. La musique restant même tout au long du 19e, l'élément de dialogue. C'est-à-dire c'est grâce à ça qu'on peut dialoguer entre communautés alors que c'est interdit au niveau politique, au niveau officiel. On va même créer des métissages, des mariages. Il y a même des mariages mixtes culturels qui se créent en permanence dans un contexte de police et de surveillance et de méfiance vis-à-vis du métissage qui est absolument terrifiant.
L'historien, jazzman et improvisateur Raphaël Imbert est l'invité de Qui Vive aujourd'hui. C'est un mariage mixte à lui tout seul et il nous parle de Duke Ellington, de Coltrane, de Louis Armstrong ou de Keith Jarrett. Il nous parle de jazz. Du jazz d'ailleurs à qui Raphaël Imbert a consacré une histoire fourmillante, passionnante, qui existe désormais en poche, intitulée Jazz suprême et préfacée par l'écrivain Patrick Chamoiseau. A tout de suite.
Sur Europe 1, Raphaël Antoven.
Si le jazz est un jeu, alors le franc-maçon Duke Ellington est le plus grand joueur du siècle. Parfois musique de cabaret, de club, de réception mondaine, il donne à son œuvre des allures de révolution, de prière, de méditation et d'exaltation. C'est fort d'une légitimité rare pour un artiste noir de son temps qu'il aborde ses œuvres religieuses, selon lui, la chose la plus importante qu'il n'avait jamais faite. C'est du jazz qu'il est question aujourd'hui dans Qui Vive en compagnie de son grand amoureux et fin connaisseur, le saxophoniste Raphaël Imbert.
Almighty God has those angels away out there above. Out there weaving, sparkling fabrics just
La voix d'Alice Babs sur Europe 1, j'ai toujours voulu le dire comme ça. Raphaël Imbert, on vient d'entendre là un extrait du second concert sacré de Duke Ellington. Juste pour l'amateur de jazz, l'amateur vaguement éclairé, on connaît en général de Duke Ellington son jazz de la nuit, son jazz de divertissement, et pourtant lui-même dit que ce qu'il a fait de plus important, ce sont ses concerts sacrés. C'était quoi ?
Il disait oui qu'il exprimait à cœur ouvert ce qu'il avait au fond de lui depuis des décennies.
Almighty God has those angels, hein, le Dieu tout-puissant a ces anges-là.
Voilà, et c'est chanté par une chanteuse suédoise, une soprano, presque de facture classique, et aussi une grande chanteuse de jazz, toujours parmi nous d'ailleurs, Les Babs, qui est une chanteuse remarquable, mais vraiment, Duke Ellington tombe amoureux de cette voix extrêmement pure, et il voit le vecteur de son message. Alors, c'est pas un message religieux au sens où on l'entend, d'ailleurs Duke Ellington
on parlerait d'un message spirituel ?
Ah, beaucoup plus, même d'une certaine manière assez métaphysique, très personnel, très œcuménique, parce que Duke Ellington va militer pour que ces concerts-là, ça concerne les 10 dernières années de sa vie. Alors d'ailleurs, les esprits un peu chagrins, les grands amateurs de Duke Ellington, mais qui ne comprenaient pas pourquoi Duke Ellington se mettait à la musique religieuse, ont dit « Ah ben après tout, il savait qu'il allait mourir, peut-être qu'il avait quelque chose à se faire pardonner ». Je leur laisse ce genre d'analyse. Et d'ailleurs, pourquoi
pas? On en est tous là,
je pense, oui.
Il fait beaucoup de bien avec ce qu'il doit se faire pardonner. Heureusement qu'il avait des trucs à se faire pardonner à ce compte-là.
Disons que j'aimerais me faire pardonner beaucoup de choses de cette manière-là. C'est certain. Et en fait, il va faire jouer ces concerts-là dans la grande synagogue de New York, au Corégie d'Orange, à Saint-Sulpice, à Paris. Vraiment une volonté d'œcuménisme. Alors évidemment, les références sont très bibliques, comme n'importe quel artiste afro-américain de son temps. Ça me paraît assez évident.
Mais c'est son lexique, en vérité, plus qu'une affaire de foi ici.
Ah, c'est son vocabulaire. C'est son imaginaire spirituel et religieux est lié à ça, mais il va lui donner une dimension, alors justement une dimension aussi fraternelle, initiatique. Alors, je parlais de son appartenance à la maçonnerie qui me paraît...
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que l'initiation a un rapport avec l'initiation au sens maçonnique du terme ici ?
Alors, je pense, parce que même...
Est-ce qu'il faudrait éduquer l'oreille comme on éduque l'individu à tailler sa pierre de lumière ?
En quelque sorte, et d'autant plus que c'est montré, là, ce qu'on vient d'entendre, on ne dirait pas à l'auditeur d'Europe 1 amateur de jazz, on est quand même sur une station qui est historiquement très liée à l'histoire du jazz en France, on ne le dirait pas que c'était de la musique spirituelle ou sacrée, on ne s'en rendrait pas compte, il dit « Ah tiens, c'est du jazz », on se croirait presque dans un cabaret, justement. C'est-à-dire que le langage de jazz pour Duke Ellington est ce vecteur d'illumination au sens large. Il a déjà fait le coup dans les années 20 quand il fait ça à l'inverse dans les Cotton Club ou dans les clubs tenus par la mafia new-yorkaise ou les grandes familles mafieuses américaines. Pour un public de blancs, il joue quoi ? Il joue le Black Beauty et la fierté d'être noir avec un style qu'il invente à part entière qui s'appelle le jungle. C'est-à-dire on joue sur les fantasmes, on joue sur les codes fantasmagoriques, ceux que d'ailleurs Josephine Baker...
Le noir se déguise en l'idée que le blanc se fait du noir.
Pour mieux s'en moquer, d'une part, et surtout pour mieux transformer l'essai.
Josephine Baker qui danse avec des bananes.
Ben oui, ça a été... Alors maintenant, c'est vu comme un code raciste, ce qu'il est au départ. Mais elle joue de ce code-là pour pouvoir transmettre quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que imaginent les gens qui viennent là se divertir.
L'implicite de ce que vous dites, Raphaël Imbert, c'est quelle est la bonne méthode pour lutter contre les inégalités ou lutter contre le racisme en l'occurrence. Est-ce que la bonne méthode, c'est celle du domestique, à la façon de Forrest Whitaker dans ce très beau film qui finalement se soumet aux ordres des Blancs, qui passe sa vie à les servir, mais qui lui-même, par l'image qu'il donne de lui-même à la fin de sa vie, a fait plus pour la cause noire que son fils qui lui était au Black Panthers.
Disons que ce qui paraît évident dans l'histoire du jazz, c'est que c'est les deux ces deux aspects fonctionnent de concert.
Parce qu'on doit, c'est une révolution qui doit plaire.
Alors c'est une révolution qui doit plaire, c'est-à-dire qu'elle a un aspect, on prend Duke Ellington ou Louis Armstrong, sont vus par les radicaux des années 60 comme un petit peu des oncles Tom, alors qu'ils ont fait tout au long de leur carrière, tout autant sinon plus effectivement pour l'avancée de ces idées-là. D'un autre côté, si on en était resté qu'à cela, et c'est aussi très lié à une époque. Le jazz et le swing, d'ailleurs, qui sont pendant son langage, c'est une manière de dire les choses sans les dire, de ne pas risquer sa peau tout en affirmant quand même au second degré ou en sous-main la radicalité d'un discours. Ceux qui ont tenté de le faire autrement à l'époque de Duke Ellington ou surtout à l'époque des gospels et du blues, sont morts pendus au bout d'un arbre. Donc il y avait aussi cette dimension-là. On invente un double langage. Un philosophe d'ailleurs afro-américain, Henry Gates, a parfaitement théorisé, conceptualisé ce qu'il appelle ça le signifying monkey, le singe signifiant.
C'est plus le singe savant, c'est le singe signifiant.
C'est exactement ça. Il part de contes africains qu'on retrouve d'ailleurs dans le sud des États-Unis, d'un petit singe qui est le maître du roi lion, mais qui se joue grâce au code du serviteur, se joue du roi lion lui-même, avec des codes de la transformation, les codes de se moquer du jeu du maître et tout ça. Et d'ailleurs, le gospel, le negro spiritual, sont appelés les cakewalks, c'est-à-dire toutes les premières musiques qui vont arriver avec le ragtime et tout ça, sont des musiques qui imitent les musiques des maîtres et qui imitent la grandiloquence des maîtres, des propriétaires, ce genre de choses. En faisant cela, les maîtres les voient, d'ailleurs c'est un excellent argument, contre-argument, regardez mes esclaves dansent, ils sont joyeux,
ils sont joyeux,
alors qu'en
bien
fait
sûr.
Ils exprimaient le contraire,
bien sûr.
Mais ils ne le disaient jamais clairement. Alors évidemment, la musique s'accompagne de cette évolution.
Le jazz occupe sur ce continent-là, à cet endroit-là du continent, le rôle que la capoeira a pu jouer au Brésil à un moment.
Totalement. Ah bah, ce sont des phénomènes de créolisation. Alors là, je reprends pour le coup, vous parliez de négritude, de la volonté de Césaire et de Senghor d'inventer cela. C'est Glissant qui va y répondre en disant non, mais les choses ont déjà été faites en fait. Il y a un phénomène de créolisation qui s'opère dans le monde moderne, dans le tout monde. Et ça, le jazz est l'illustration culturelle parfaite de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sans même la différence entre la créolisation et le métissage, c'est que le métissage, il est voulu. La créolisation se passe naturellement. Elle opère ces rencontres, ce métissage, ce mariage avec de façon naturelle pour aller vers le dialogue et la radicalité.
Là, c'était Duke Ellington qu'on écoutait, pas vous. Là, c'est vous, Raphaël Imbert. Hein. Music is my hope. C'est le morceau A Letter to the Muse. Donc, c'est de vous, c'est de la compagnie Nine Spirit que vous dirigez. Une question quand même très rapide. Quelle est cette muse à qui vous envoyez cette lettre musicale en un mot? Elle a un prénom?
Annabelle.
Magnifique. Voilà, une réponse. Je ne demandais pas tant de précisions, mais bon, on les a quand même. Le jazz est-il un style de musique comme les autres, ou bien plus un état d'esprit, ou un état du cœur, ou un souffle de l'âme? Qui sait? On y revient juste après ça sur Europe 1.
Sur Europe 1. Raphaël Antoven.
On parle du jazz aujourd'hui dans Qui Vive avec Raphaël Imbert, historien, saxophoniste et improvisateur génial. C'est de l'improvisation d'ailleurs qu'on va parler maintenant, car l'improvisation c'est le contraire du prévisible et pourtant on y reconnaît des styles. C'est le contraire de la composition et pourtant les grands compositeurs sont aussi des improvisateurs, on en parlait tout à l'heure. Et si l'improvisation était au solfège, ce que la vie est à la théorie, on en parle en compagnie du saxophoniste et historien donc Raphaël Imbert, qui est avec nous en studio et qui est même venu avec son saxophone. D'ailleurs, c'est le saxophone lui-même qui va nous répondre. Écoutez. Pas de la musique, c'est du miel, Raphaël Imbert, que vous venez de jouer. Pour comprendre le travail de l'improvisateur, enfin, ce que fait l'improvisateur exige en amont du moment de l'improvisation énormément de travail. Et pourtant, ce travail-là, on l'oublie dans l'instant du jeu. Moi, ça m'a toujours fait penser aux élections en Corse, dans Astérix en Corse. Vous savez, quand les élections dans les villages corses, on bourre les urnes, on les jette à la mer, et puis après, c'est le plus fort qui gagne. Et j'ai un peu l'impression qu'en fait, on se bourre l'esprit, et puis après on jette tout à la mer, et on joue, et c'est le plus fort qui gagne.
Je n'avais pas pensé à cette... C'est exactement ça, en fait. Parce qu'en plus, c'est un album que je vénère.
Un album merveilleux, Astérix en Corse. Hein,
extraordinaire. Bien sûr. Et je pense aussi à la phrase de Charlie Parker, bon, qui est quand même un peu le... C'est un peu notre...
C'est un peu le maître de l'improvisation.
Il y a un incontournable qui disait « Travaille, 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 et surtout, quand tu montes sur scène, oublie. » Voilà. Donc, en fait, effectivement, alors moi, c'est dans mon travail de pédagogue, c'est quelque chose de très important parce que j'ai beaucoup, maintenant que le jazz est enseigné dans les conservatoires, et c'est une bonne chose sur le papier.
Mais ça le conservatise.
Ah bah,
ça le calcifie un petit peu. Ça le fige un peu peut-être, non?
Et ça l'académise surtout. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des intentions académiques qu'il n'avait pas. Alors attention, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jazzman, on parlait du Kenton. Du Kenton a une ambition formelle digne d'un compositeur de musique classique. D'ailleurs, c'était une volonté pour lui militante en tant que noir américain de montrer qu'il était capable d'écrire de la musique classique américaine. Il avait vraiment cette volonté-là. Ahmad Jamal, à l'heure actuelle, un des plus grands pianistes vivants, mais qui a près de 90 ans, dit « je joue la musique classique américaine ». Il y a vraiment cette volonté militante, mais l'improvisation fait partie de ce langage. Et le problème d'académiser l'improvisation, c'est qu'elle peut devenir systématique. Or, il n'y a rien que le jazz déteste plus que les systèmes.
À la façon dont on pourrait parler d'une recette du bonheur, naturellement. Si le bonheur devient une recette, c'est qu'il est déjà parti depuis longtemps.
Ah bah exactement, c'est tout à fait ça. Et je me bats avec les étudiants pour leur montrer que parfois, si on veut à tout prix jouer telle gamme sur tel accord, que c'est ça qu'on m'a dit de faire, eh bien je reviens à l'essentiel, je reviens au document qu'on a écouté, par exemple de Duke Ellington. Je dis, est-ce que vous avez l'impression qu'il joue des gammes sur des accords? Est-ce que vous avez vraiment l'impression? Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression qu'il est en train de construire une narration, qu'il est en train de raconter quelque chose avec un langage qui est beaucoup plus un langage, j'allais dire presque sémantique, c'est-à-dire que harmonique, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser des gammes sur des accords, qui est la façon dont on maintenant, paradoxalement, on apprend le jazz dans les conservatoires et les universités, alors que ça fait que depuis les années 70 qu'on pense comme ça. Et il y a un vrai problème là, en l'occurrence, vous disiez que j'avais cette attention pour l'histoire. Le fait de travailler sur l'histoire de cette musique permet de raconter et de voir ce qui s'est passé. Pédagogiquement, la transmission de cette musique, c'est son essence d'une certaine... J'aime pas le mot essence, évidemment, parce que je vais pas tomber dans l'essentialisme. Mais ce qui fait la force de cette musique par rapport à l'histoire du XXe siècle, c'est la façon dont ça s'est transmis. C'est transmis de génération en génération, de maître à disciple. En fait, c'est revenu... En fait, le jazz a quelque chose d'assez antique. Il est revenu à des méthodes de transmission qui étaient celles de la musique classique au XVIIIe siècle, par exemple.
C'est-à-dire de l'oralité.
De l'oralité, de la relation au maître à disciple, de l'exemplarité de celui qui est en train de jouer vis-à-vis du jeune.
Et du sentiment aussi qu'on rémunère mal son maître si on en reste toujours l'élève.
Complètement.
Et qu'il faut quand même se fabriquer une personnalité.
Tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est Clark Terry qui était le trompettiste. Je crois qu'on l'entendait tout à l'heure d'ailleurs sur Take the Train. Ouais. Un des plus grands trompettistes et des plus grands pédagogues qui disait, voilà, les trois mots, c'est tu imites, tu restitues et tu inventes. Voilà, c'est les trois mots maîtres pour jouer cette musique. Il ne parlait jamais de gamme, il ne parlait jamais d'académie. Il y a une sorte de nouvelle fonction du jazz qui s'est opérée dans les conservatoires.
Et c'est ça qui est paradoxal et assez contre-intuitif en vérité. Parce que souvent, quand on n'est pas improvisateur, quand on ne sait pas ce que c'est, on se représente l'improvisation comme une espèce de fantaisie frivole. Au fond, on fait n'importe quoi, on improvise. Mais ce n'est pas vrai. Improviser, c'est réagir adéquatement à une situation donnée sans trouver dans le code des convenances le comportement adéquat. Donc c'est trouver dans l'instant la note qui convient, la réflexion qui convient, le comportement qui convient, ce qui suppose donc un travail en amont et un rapport particulier au travail qu'on a accompli.
Oui, un travail qui va peut-être être d'ailleurs, on a souvent l'impression, c'est-à-dire que ce qui va décourager l'élève d'ailleurs, dans ce contexte d'académie, ce qui décourage l'élève, c'est la monstruosité du travail qu'il y a à faire pour un résultat où il ne voit pas directement le lien qu'il y a entre ce travail et les résultats. Et alors là, moi je décomplexe tout de suite, je dis mais c'est ce qui est fabuleux quand vous êtes jazzman et improvisateur, c'est que vous explorez tout. Le jazz, pour moi, c'est une définition que je me suis trouvé et que j'aime bien donner justement dans ce contexte-là, c'est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Mais si on veut être réactif et adaptable à peu près tous les contextes, il faut avoir cette curiosité, il faut avoir ce travail en amont qui est capital, mais qui est énorme, ça c'est vrai.
10 kilos de charbon pour un demi-diamant.
Exactement, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, les références chimiques, voire alchimiques, sont assez courantes dans le jazz. Les musiciens du free jazz, par exemple, dans les années 60, utilisent beaucoup ce genre d'image en disant, voilà, il faut un travail monstrueux, il faut tenter un petit peu tout, il faut revenir sur la table de travail perpétuellement pour arriver à un résultat qui va être magnifique, mais somme toute minuscule par rapport à la somme de travail qui a été donnée.
La musique est ta propre expérience, tes propres pensées, ta sagesse. Si tu ne la vis pas, elle ne sortira pas de ton biniou. Il t'enseigne qu'il y a des frontières en musique, mais mon gars, il n'y a pas de frontières en art. Qui dit ça?
C'est Charlie Parker.
Charlie Parker, évidemment. Vous parlez d'or. Raphaël Imbert est avec nous aujourd'hui, le jazzman et historien, spécialiste donc des questions qu'il pratique en expert. En quoi le jazz, selon vous, est-il, c'est une expression de vous, Raphaël Imbert, du vécu musicalisé?
Vous preniez l'exemple de la phrase de Charlie Parker. Tous les jazzman, quand ils tentent d'expliquer...
Je la redonne, phrase de Charlie Parker, c'est important. La musique est ta propre expérience, tes propres pensées, on avait fini là-dessus, ta sagesse. Si tu ne la vis pas, elle ne sortira pas de ton biniou.
En fait, le jazz vient de quelque chose, d'un geste, d'un moment de l'histoire de la musique et de l'humanité qui est particulier, qu'on appelle le blues. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup glosé, parlé de ce qu'était le blues. Pour moi, le blues, c'est d'abord un phénomène assez étrange.
Première fois que je vous entends citer Johnny, oui. Allez-y, allez.
Oh, je pourrais le faire.
J'en suis sûr.
J'ai même... J'avoue, je fais une parenthèse, mais j'ai joué du Johnny le lendemain de sa mort. On était au bal Blomet. on ne pouvait jouer que cette chanson que
ne
vous
le
citez.
Dites pas comme un aveu, voyons. Allez-y.
Et en fait, le blues est un phénomène assez unique dans l'histoire de la musique, voire même de l'humanité. C'est la première fois que des musiciens jouent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que l'acte du bluesman, celui qui se crée dans le... Alors on parle toujours des chants de coton, mais on peut parler du contexte justement populaire et laborieux des États-Unis du XIXe siècle et qui suit l'expérience de l'esclavage. Des musiciens qui prend un instrument et qui chante sa journée pour lui-même, avec un aspect cathartique évident. Mais c'est assez unique. Je ne trouve pas d'autre exemple d'un musicien qui joue d'abord pour lui-même.
Et quand vous est-ce que toute personne qui siffle dans sa douche n'est pas à petite échelle dans la même position ?
Oui, alors le seul problème, c'est que vous sifflez dans votre douche, vous ne racontez pas votre journée. C'est quand même assez... Et justement, vous ne racontez pas votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une sorte d'évidence pour le bluesman afro-américain, mais pas que, ce sera exactement la même chose avec les paysans blancs qui vont inventer la country, justement. C'est-à-dire de raconter sa vie comme si elle était en soi passionnante et que le fait d'être encore en vie est un miracle. En fait, on parle de sa vie comme un miracle permanent. D'ailleurs, la plupart des blues commencent par « I wake up this morning », je me suis réveillé ce matin. C'est-à-dire que déjà en soi, c'est un miracle. «
Woke up this morning », oui, c'est
exactement.
Ça. Oui, ça
et donc, on raconte sa vie. Et quand vous voyez Muddy Waters ou Johnny Hooker, ils vont jouer avec les Rolling Stones devant 50 000 personnes exactement de la même manière que sur leur balcon avec leur rocking chair. C'est-à-dire que pour eux, il y a d'abord... On chante d'abord pour soi-même. Et ça donne une individualité au jazzman, parce que le blues, c'est le départ de ce geste musical. Ça donne à l'instrumentiste, on pourrait parler de Coltrane dans ce sens-là, une individualité, une force individuelle, une force cathartique tellement, tellement puissante que c'est une évidence pour le reste de tous les musiciens avec qui ils jouent et une évidence pour le reste du public. C'est-à-dire que chacun va s'identifier dans la propre vie, dans le vécu instrumentalisé de celui qui est en train de raconter sa vie.
Il y a deux formes d'égoïsme à l'œuvre ici, c'est intéressant, parce qu'il y a l'égoïsme du type qui a besoin de succès, qui veut que ça marche pour lui et qui donc fait la musique qui plaît aux oreilles, au plus grand nombre d'oreilles. Bon, vend son âme, en somme, le faustien qui préfère, comme on dit, faire de la merde et en vendre beaucoup plutôt que faire des trucs plus exigeants. Bon, première forme d'égoïsme. Et puis deuxième forme d'égoïsme, un égoïsme supérieur, c'est celui qui n'a pas besoin du suffrage des autres et qui du coup fait la musique qu'il veut et qui du coup donne vraiment quand il donne et n'a rien à vendre.
Et c'est d'ailleurs l'essentiel des parcours des jazzmen, c'est celui-là. C'est des gens qui ne se sont jamais posé la question de savoir si ce qu'ils étaient en train de faire allait plaire au plus grand nombre ou pas. C'est la différence, d'ailleurs beaucoup plus une différence de style et d'esprit avec le rock'n'roll, avec l'effervescence médiatique.
L'enjeu était de plaire.
Où l'enjeu était de plaire.
Et de susciter du désir.
Exactement. Et le jazzman n'a pas cette intention-là, ça c'est clair.
Pour plaire, il faut ne pas le vouloir. Tiens, est-ce que c'est valable pour Dizzy Gillespie? Écoutez ça.
Raphaël Antoven pense à voix haute sur Europe 1. Qui vive?
Ça, c'est le début du morceau Bebop.
Oui.
Dizzy Gillespie, Raphaël Imbert. Quelle est la nouveauté du bebop quand il apparaît dans les années 40-50 par rapport au jazz traditionnel qui est déjà bien installé ?
En fait, là, on l'entend à l'œuvre. C'est un hymne, hein, ce morceau. C'est-à-dire que c'est une revendication, un manifeste. Déjà, c'est le tempo. Tempo infernal. C'est-à-dire que, en fait, les morceaux.
On le trouvait déjà, non, ce tempo infernal
pas...
qui,
ah, non.
De précipitation comme ça.
Justement, hein, pas. On le trouvait dans l'intention rythmique. C'est-à-dire que les premiers témoignages sur le jazz dans les années 10-20, sur le ragtime, c'est la frénésie rythmique. C'est-à-dire qu'on voit à l'œuvre une sorte de diablerie. On l'explique comme ça, et notamment en France d'ailleurs. Hein, on aime le jazz d'ailleurs, souvent pour de mauvaises raisons. On va voir des sortes de bons sauvages qui vont jouer une musique diabolique.
Et ou de mauvais sauvages d'ailleurs. De sauvages qui font peur,
voilà,
etc.
D'ailleurs, ouais. D'où le premier paradoxe entre les artistes qu'on aime, on voit du Kenton et on voit qu'on a affaire à un esthète intellectuel d'une grande culture, alors qu'on s'attendait à avoir une sorte de sauvageon de la musique. Pas du tout. Et là, dans le bebop, il y a une volonté, mais alors il y a une frénésie rythmique de son, surtout. En fait, on confond rythme et son dans ce cas-là. C'est-à-dire, la révolution du jazz, c'est d'abord une révolution sonore. On utilise des instruments, on leur fait faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas faits. On va mettre des trucs dans le piano, on va inventer un nouvel instrument qui s'appelle la batterie, c'est l'invention du jazz. On va utiliser des bouchiottes sur les trombones et trompette pour changer le son. Donc en fait, c'est une révolution sonore. Et cette frénésie qu'on dit rythmique, en fait, elle est d'abord sonore. Et le bebop, lui, c'est une revendication de virtuose. On est des grands musiciens. On veut réellement être admiré et critiqué, évalué en tant que grands artistes. Et regardez, on joue des trucs que personne d'autre ne peut jouer.
Louis Armstrong n'aimait pas le bebop, non ? J'ai raison. Il disait, ce sont des accords bizarres qui ne veulent rien dire, on ne retient pas les mélodies, on ne peut pas danser dessus.
Il y a même une vidéo extraordinaire où Gillespie, ouais, et Armstrong se répondent par chansons interposées. On se croirait dans une battle de gangsta rap, sauf que c'est dans les années 40 entre Armstrong et Gillespie. Et on voit d'ailleurs que les origines du rap sont pleinement, et notamment, vous savez, de ces batailles d'ego et de vocabulaire et d'insultes parfois très drôles. En fait, on les retrouve dans le jazz avec Cab Calloway, avec Armstrong et tout ça. Ceci étant, ils ont aussi enregistré ensemble et Gillespie savait très bien ce qu'il devait à Armstrong. Je crois qu'il y a surtout, ça a été une bataille médiatique. C'est-à-dire que tout d'un coup, les boppers sont arrivés et ont vraiment...
Les boppers, c'est ceux qui jouaient du bebop.
Ceux qui l'ont inventé, c'est Thelonious Monk, c'est Charlie Parker, c'est Dizzy Gillespie, c'est des quelques musiciens de Harlem d'ailleurs. Hein. Ça démarre dans un petit mouchoir de poche, dans des clubs qui ne sont pas beaucoup plus grands que ce studio. Et ça révolutionne radicalement la musique, mais avec une seule intention au départ, c'est de jouer des morceaux difficiles pour que les musiciens un peu plus moyens soient largués au bout de deux minutes et rester entre très bons musiciens. La volonté du bebop au départ, c'est de dire on fait une musique pour musiciens.
On a dit tout à l'heure que c'était une musique populaire et savante. Et on découvre maintenant qu'elle est populaire et ultra élitiste, en fait.
Évidemment. La dimension élitiste du jazz a toujours été là. D'ailleurs, c'est ce qui gêne. C'est ce qui gêne souvent. Vous savez combien de fois on vient me voir avant concert, j'espère que vous faites pas du jazz trop élitiste, ou alors j'espère que vous faites pas du free jazz. Alors j'ai dit, vous allez voir, je vais en faire et ça va vous plaire. Bah, il faut quand même aussi donner une intention. J'avoue que moi, à ma génération, c'est mon travail d'historien de recherche est très lié à ça, mais j'en ai un petit peu marre que les gens aient une image du jazz aussi élitiste. Je pense que c'est une musique d'initié, c'est pas une musique d'élite, justement. Là, voilà la différence.
Et chacun peut être initié, c'est un peuple élu auquel chacun peut appartenir.
Exactement.
Entre battle et fraternité, c'est du jazz qu'on parle aujourd'hui, en compagnie du saxophoniste Raphaël Imbert, directeur artistique de la compagnie Nine Spirit, et auteur de Jazz Suprême, disponible aujourd'hui en livre de poche, avec une préface, il faut le dire, de Patrick Chamoiseau. On se retrouve tout de suite.
Qui vive sur Europe 1, Raphaël Antoven.
On craint, on redoute et on espère peut-être parfois le choc des civilisations. Mais pourquoi est-ce que deux cultures ou deux civilisations devraient se télescoper quand elles se croisent? C'est de leur dialogue et non de leur affrontement que nous parlons aujourd'hui dans Qui vive, en entrant grâce au saxophoniste et historien Raphaël Imbert dans le creuset formidable du jazz.
Blue sky, smiling at me, nothing but blue sky, do I see? Oh, don't talk, blue bird. Singing a song, nothing but little bluebirds all day long. I never saw the sun.
Vous savez, Raphaël Imbert, que dans le Voyage au bout de la nuit, il y a un seul passage antisémite. C'est le moment où Céline parle d'une musique judéo-négro-bolchévique. Et je reprends ici ce syncrétisme, en tout cas de judéo-négro, parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'on vient d'entendre.
Ah, c'est totalement ce qu'on vient d'entendre. Et vous savez,
faut expliquer ça. Hein, le lien entre le jazz et, en l'occurrence, le klezmer, c'est-à-dire la musique, la musique juive.
Et la communauté juive américaine, c'est-à-dire qu'en fait, qui est partie prenante de l'histoire de la création du jazz. Et justement, pour moi, c'était assez évident. Quand je travaille sur le jazz, je travaille surtout sur l'afro-américanité. Ça me paraît être quand même le cœur de cette histoire-là. Mais ce qui apparaît tout de suite en filigrane, c'est ce parallélisme, cet accompagnement, cette cause commune, pour prendre le titre d'un très bon livre de Nicole Lapierre, qui parle de cette relation entre la communauté noire et la communauté juive, notamment intellectuellement et musicalement. C'est-à-dire qu'on fait cause commune pour se battre contre l'ennemi, qui est le racisme, qui est la ségrégation. N'oublions jamais que le Ku Klux Klan se recrée en 1915, d'abord sur un acte antisémite. Et non pas sur un acte négrophobe, ce qu'ils vont faire d'ailleurs très couramment.
Je l'apprends en vous écoutant,
voilà.
Là.
Ah oui, c'est en Géorgie et ils vont...
Ils ont commencé par un juif.
Voilà, alors le Ku Klux Klan se crée juste après la guerre de sécession, comme une réaction à la victoire des nordistes et de l'abolition de l'esclavage. Mais l'association avec beaucoup de guillemets, va disparaître petit à petit. Elle va se recréer avec une explosion de succès absolument terrifiante, en 1915, pour un acte antisémite, pour tuer un tailleur juif qui avait été soupçonné de vouloir se marier avec une non-juive. Et au même moment, vous savez, Griffith fait un film qui, dans l'histoire du cinéma, est déterminant. C'est Naissance d'une nation, mais qui est un des films les plus racistes de l'histoire.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Et qui aussi détermine, finalement, une glorification du Ku Klux Klan et un renouveau du Ku Klux Klan. Et donc, il y a une cause commune qui se fait, en fait.
Je vous lis, Raphaël Imbert. Juifs et Noirs américains partagent un même rapport à l'errance et une même fierté d'avoir tant contribué à l'édification d'un pays et d'une société à l'origine méprisante à leur égard.
Le jazz, tel qu'il se développe à partir des années 20, dites-vous, peut même être vu comme une construction commune, carrément.
Ah bah, les grands musiciens juifs qui ont créé, alors je pense à Benny Goodman, plus tard à Stan Getz, à Al Cohn, enfin, en fait, il y a une vraie, oui, une vraie cause commune, il y a une vraie connivence qui s'opère. Il y aura des tensions. Il y aura des tensions d'ailleurs qui sont liées à l'énorme succès de la conversion à l'islam dans les années 40 et 50 de beaucoup de musiciens noirs américains.
Ce qu'on appelle l'amadisme en l'occurrence.
Alors en l'occurrence c'est l'amadisme, c'est-à-dire que justement beaucoup de gens en France pensaient qu'ils s'étaient convertis à Nation of Islam sous l'effet de Malcolm X.
Donc Malcolm X et puis Farrakhan ensuite, etc. Non, c'est en fait, moins extrême que ça.
C'est beaucoup moins extrême que ça, c'est un phénomène hétérodoxe, c'est un islam qui alors, est vu par les sunnites comme par les chiites comme étant totalement hétérodoxe, un peu comme l'équivalent des cathares dans l'histoire de la chrétienté. Hein. C'est une communauté d'ailleurs qui va se développer, qui est persécutée en Moyen-Orient et donc qui va se développer aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis sont d'abord une terre d'asile religieuse. C'est quand même ça qu'il faut bien noter. C'est-à-dire que vous avez du racisme, de la ségrégation, mais vous avez une tolérance religieuse qui est telle et qui d'ailleurs, pour les Noirs américains qui se convertissent à l'islam, c'est génial parce que quand vous êtes au regard de l'administration américaine dans les années 40, quand vous êtes musulman, c'est que vous êtes arabe, donc vous êtes blanc et vous pouvez exiger sur vos papiers d'identité d'avoir un W à la place du B, c'est-à-dire white à la place de black. Et vous pouvez accéder au restaurant.
Et donc la conversion d'un certain nombre de membres de la communauté noire à l'islam vient du fait que être musulman leur valait une sorte de blanc-seing.
Alors c'est exactement ça, et aussi un acte symbolique très important. Vous savez, quand vous êtes noir américain, vous portez très souvent le nom des maîtres de vos grands-parents. Donc en faisant ça, vous changez de nom, vous prenez un nom de baptême musulman et vous nettoyez en quelque sorte l'histoire de l'esclavage à travers une religion qui à l'époque est vue comme une religion totalement dénuée de violence.
L'amadisme est un islam pour le coup sans violence, qui prêche une paix mondiale.
Exactement. Et universaliste.
Voilà.
Donc on est justement, on a vu cette conversion pour l'islam comme quelque chose de très radical, ça l'est, parce que c'est un acte radical. On ne change pas de religion aux États-Unis dans les années 40 aussi simplement. Mais c'est un acte radical pacifiste, c'est-à-dire que beaucoup de ces artistes vont être finalement quelque chose d'assez proche de ce que Martin Luther King va développer quelques années après.
Plus Martin Luther King que Nation of Islam, que Malcolm X.
Tout le monde
en fait
admire Malcolm X. Ouais. Tous les artistes ont une admiration.
J'ai jamais entendu un jazzman dire du mal de Malcolm X.
Ce n'est pas possible. C'est celui qui va donner, en fait, vous savez, la plupart des artistes intellectuels noirs américains déterminent en fait leur identité en fonction de cet équilibre entre Malcolm X et Martin Luther King. Martin Luther King est vu aux États-Unis comme quelqu'un de tout aussi radical politiquement. C'est un communiste d'une certaine manière. N'oublions jamais les discours de Martin Luther King. Finalement, politiquement, ils sont tout aussi radicaux, sinon beaucoup plus, notamment contre la guerre de Vietnam, que ceux de Malcolm X. Malcolm X dit simplement quelque chose, c'est le droit à la défense en fait. Et on connaît aussi l'évolution de Malcolm X à la fin de sa vie, après son pèlerinage à la Mecque, après une certaine constatation d'un universalisme qu'il ne soupçonnait pas en restant à Nation of Islam.
Alors, c'est deux ascenseurs qui se croisent. Mettons que Martin Luther King ait été plus radical qu'on ne le dise, mais enfin, il a quand même rêvé en noir et blanc. C'est pas parce qu'il l'a dit au monde entier que ça n'est pas le fond de sa pensée, non ?
Ça c'est clair. Oui, on est sur un discours et on voit d'ailleurs le résultat. On voit le résultat à l'annonce de sa mort, les émeutes qu'il y a le lendemain. C'est un drame mondial. Et on voit, on a fêté les 50 ans de sa disparition, on voit encore l'impact que Martin Luther King a là-dessus. Mais c'est d'ailleurs un paradoxe que moi j'étudie beaucoup dans mon livre, et notamment vis-à-vis de cette histoire des tensions entre communautés. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix mettre Malcolm X comme un phare de qu'il l'est. Mais on voit bien que Martin Luther King a inspiré d'autant plus, et sinon beaucoup plus, les artistes dont on parle depuis le début de l'émission, à commencer par Duke Ellington, mais surtout Coltrane. Il y a une volonté de la part des journalistes et des historiens de vouloir à tout prix radicaliser la pensée politique de ces artistes, alors qu'eux-mêmes, et c'est une forme de radicalité, mais c'était une radicalité de l'universalisme et du pacifisme, finalement.
On a grimpé les plus hautes montagnes et atteint les plus hauts sommets, mais tout ça n'est rien à côté d'une danse avec toi. Joue contre joue.
Qui vive sur Europe 1. Raphaël Antoven.
Écoutez, Raphaël Imbert, cette phrase de Proust. De même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être, s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, c'est très touchant d'abord d'entendre Proust et de me rendre compte de, peut-être d'un lien que je ne soupçonnais pas entre Proust et John Coltrane, qui disait justement...
Ça, c'est une passerelle.
Exactement. Bah, écoutez, on la découvre ensemble aujourd'hui, qui disait, dans une interview, qu'il voulait changer l'esprit, le climat, et voire même donner la musique de l'âme sa plus grande dimension. Il y a quelque chose de très similaire. Je pense que ce genre de passerelles sont importantes, justement, pour comprendre en quoi Coltrane, par exemple, est quelque chose de déterminant dans l'histoire de notre culture.
Pour le comprendre, on va l'écouter. Écoutez ça. Qu'est-ce que c'est, Raphaël Imbert ?
Le dernier mouvement d'une œuvre majeure de Coltrane s'appelle Love Supreme. L'amour suprême et qui sont son grande œuvre mystique, en fait. C'est vraiment le témoignage de son expérience mystique. Alors après, la question de savoir si on y croit ou pas ne rentre pas en ligne de compte, même si elle a été le vrai problème des critiques de jazz pendant longtemps. Vous savez, les critiques de jazz en France, notamment, c'est des gens qui viennent d'un univers politique très à gauche, ou pour le jazz est la musique de la libération, sur la libération des mœurs. Je pense aussi à l'existentialisme, c'est-à-dire la connivence entre le jazz et l'existentialisme est liée à ça. Et manque de peau, on découvre que les artistes qu'on admire pour des raisons politiques ou de liberté sont des croyants, des gens d'un profond, et dans le cas de Coltrane, d'un mysticisme profond, qui est très similaire à ce qu'on peut découvrir sur Saint-Jean de la Croix, sur Rumi ou les grands mystiques perses, par exemple, où les thèmes sont pareils. Et on sait que Coltrane a écrit un poème, on revient sur la dimension littéraire, il a écrit un poème mystique pour composer l'œuvre qu'on vient d'entendre. C'est le dernier mouvement et ça s'appelle psalme, c'est-à-dire psaume. En plus, il y a une dimension psalmodique. On en revient au lien entre communautés, entre cultures qui ont déterminé l'essence du jazz. On est en plein dedans. On est entre liturgie européenne, entre africanité assumée, entre référence à toutes les liturgies du monde, notamment liturgie juive. On est complètement là-dedans.
Liturgie, africanité et existentialisme, puisque vous-même avez cité l'existentialisme. Or, l'existentialisme n'a rien d'une liturgie. Enfin, c'est devenu un catéchisme pour les successeurs de Sartre, mais ça n'a rien d'une liturgie. L'existentialisme, c'est l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que tu agis avant de savoir qui tu es, et tu es après coup ce que tu auras fait. Or ça, c'est pas du tout mystique, c'est pas du tout théologique comme façon de voir. C'est tu vis d'abord.
Ah oui, c'est vrai, mais d'une certaine manière, on en revient au paradoxe sur lequel on ouvrait l'émission.
C'est celui de l'improvisation.
C'est celui de l'improvisation, c'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, c'est l'acte même qui rend Coltrane mystique. Alors, les circonstances de sa rencontre mystique, elles sont en particulier, elles sont liées d'ailleurs à la drogue. Vous savez que c'était un problème récurrent dans les communautés des musiciens de l'époque. Il se débarrasse de la drogue et en se débarrassant de la drogue, il dit avoir rencontré Dieu. Alors moi, je trouve ça intéressant.
Est-ce qu'ils ont gagné au change?
Ah, je pense que les deux s'en portent mieux depuis l'œuvre de Coltrane.
La drogue ou Dieu, vous voulez dire?
Ah non, en tout cas Coltrane, oui. Ça c'est certain. En ce qui concerne le reste, on a affaire. Il y a beaucoup trop de croyants dans les deux secteurs. J'ai pas envie de me disputer et de perdre mon temps avec ça. Mais dans le cas de Coltrane, c'est une évidence que son œuvre a changé. Il y a un avant et un après cette expérience-là. Et d'une certaine manière, moi, l'argument que je donne là-dedans, c'est pourquoi ce qui serait valable pour analyser la musique de Mozart, de Bach ou de Messiaen, autre grand mystique, ne serait pas valable pour analyser Coltrane, par exemple. On est en plein dedans.
Ne vexons pas les croyants, ni les mystiques des deux camps. Un texte pour vous, Raphaël Imbert, à l'issue de cette discussion. Un texte de Vladimir Jankélévitch. Il dit ceci. L'artiste joue avec l'immédiat comme le papillon avec la flamme. Un jeu acrobatique et périlleux. Pour connaître intuitivement la flamme, il faudrait non seulement voir danser la petite langue de feu, mais épouser du dedans sa chaleur, joindre à l'image la sensation de la brûlure. Le papillon ne peut que s'approcher de la flamme au plus près, frôler sa chaleur et jouer avec le feu, mais si avide de la connaître encore mieux, il en vient imprudemment à pénétrer dans la flamme, que restera-t-il de lui sinon une pincée de cendre ? Connaître la flamme du dehors en ignorant sa chaleur, ou bien connaître la flamme elle-même en se consumant en elle, savoir sans être ou être sans savoir, tel est le dilemme, un dilemme que vous surmontez. Grand merci Raphaël Imbert d'être venu dans Qui Vive, partager vos lumières sur le jazz et nous donner à entendre la double voix du connaisseur et du praticien, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vous qu'on entend là, hein, c'est votre saxo. Merci à mes camarades et amis Julien Tricard à la préparation et Thomas Caillet à sa réalisation. Thomas, dont c'était l'anniversaire le 7 avril dernier. 40 ans pour un jeune homme, c'est étonnant. Comment être aussi jeune et aussi vieux déjà? Encore un exploit de notre réalisateur irremplaçable. Joyeux anniversaire Thomas, et comme disait Cioran, une année de moins. Une année de moins, mais des auditeurs en plus, car vous êtes chaque semaine, chers auditeurs, plus nombreux à nous écouter et à nous télécharger. Or, figurez-vous que depuis que ça m'arrive, je peux vous garantir que rien n'est plus agréable que d'être abondamment téléchargé. Continuez donc, ne changez rien. Qui Vive est disponible en téléchargement sur europe1.fr. Merci à tous, à très vite.
Retrouvez Qui Vive tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1 et un podcast sur europe1.fr. Europe 1.
Il y a 50 ans, la révolte grondait sur les ondes.
Reculez ! Les étudiants
savent ! Et les manifestants ne reculent pas !
Sur europe1.fr, revivez les événements de mai 68 comme si vous y étiez.
En direct sur les ondes.
L'oreille collée au poste d'Europe numéro 1.
L'objet de cette explosion, vous avez entendu...
Mai 68, la révolte sur les ondes. Un document sonore exceptionnel, réalisé à partir des archives d'Europe 1.
Le désordre est là.
Mai 68, la révolte sur les ondes, à réécouter sur europe1.fr.